Bonjour à tous, vous êtes sur France Liberté. N'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour vous abonner à la chaîne et ainsi que vous abonner au canal de France Liberté sur Telegram. Je vous mettrai le lien juste en bas de la vidéo. Aujourd'hui, mon invité est Vincent Helt, économiste, auteur. Bonjour Vincent.
Bonjour Ludovic et merci.
Je vous en prie, c'est avec plaisir qu'on vous a pour la deuxième fois sur France Liberté. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques livres que vous avez écrits, qu'on puisse rapidement voir quel est votre domaine de compétence en matière économique et financière?
Alors, le premier que j'avais écrit, c'était aux éditions Xenia et c'était Le Crépuscule de la Banque nationale suisse. Et qui a atterri sur les étagères de diverses bibliothèques universitaires américaines, bizarrement, comme Harvard, Stanford, des trucs. Donc c'est assez étonnant. Et le deuxième que je recommande, plus et plus lisible, c'est Après la crise, et qui me paraît être d'une actualité tout à fait prégnante, on va dire, et qui est disponible en ligne gratuitement. Si ça peut vous intéresser, allez voir. Et le dernier, c'était Asservissement, où je m'intéresse un peu plus à des questions on va dire, de société, de psychologie sociale aussi. Enfin, je n'ai pas de très grandes qualifications dans le domaine, mais ça m'intéressait d'élargir un peu aussi sur la démographie. C'est vrai que l'économie sans la démographie, il manque quelque chose, en fait.
Effectivement. Du coup, Vincent, on va parler aujourd'hui un petit peu de la situation bancaire et monétaire. Alors, effectivement, il y a eu ces banques américaines, la Silicon Valley Bank, First Republic a été reprise par JP Morgan. Comment il faut comprendre la situation actuelle au niveau bancaire? En Suisse, il y a eu effectivement aussi la chute de Crédit Suisse. Il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises par le Conseil fédéral. Certains dénoncent même ces mesures. De manière générale, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation actuellement?
Alors, de mon point de vue, c'est la fin d'un système monétaire, pas seulement une crise financière, c'est le début de la fin, ou peut-être même le milieu de la fin, je ne sais pas exactement où on se trouve, mais qui va apporter un changement, comment dire, copernicien, une révolution copernicienne du fonctionnement des systèmes monétaires. La question du retour à l'état mort qui t'intéresse, je le sais. Va être, je pense, d'actualité et peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et le point essentiel, je pense, c'est qu'on va vraiment détruire un système pour en apporter un nouveau, basé essentiellement sur ces fameuses monnaies numériques de banque centrale dont je parlais en 2018, après la crise, et qui est maintenant la grande actualité des banques centrales qui disent on va, et dans le monde entier, c'est un phénomène absolument mondial. La Banque de Russie, par exemple, a testé le mois dernier, a commencé ses projets pilotes de monnaie numérique de banque centrale. Donc on va avoir un changement, je pense, une explosion, une implosion, comme on voudra, financière au niveau mondial. Et simultanément, ou très vite ensuite, l'arrivée de ces monnaies numériques qui posent évidemment des questions qui ne seront assurément pas des crypto-monnaies, où tout sera transparent et où va se poser très rapidement la question de est-ce qu'on laisse les gens utiliser de l'argent liquide ou est-ce que l'on veut connaître l'intégralité de leur comportement économique, comportement d'achat. Et je crois que la réponse est déjà un peu dans la question, en cela que Christine Lagarde parlait récemment, par exemple, des risques terroristes. Alors, si on laisse les transactions sans surveillance, on s'expose à des financements terroristes. Et d'un autre côté, si l'on veut apporter des taxes sur les transactions financières, évidemment, il faudra que, enfin, ça exclut la possibilité de continuer à utiliser de l'argent liquide. Ça veut dire on finance l'État par une sorte de TVA sur toutes les transactions imaginables et que l'on va prélever directement sur les transactions effectuées.
Alors, j'informe les auditeurs que mon livre, Le suicide monétaire, la seule monnaie véritable et honnête est l'or physique, s'émanciper de l'euro pour conjurer la tyrannie, va bientôt sortir d'ici un mois aux éditions Maya. Donc, évidemment, la question monétaire, c'est une question très chaude, on va dire. Par rapport... sur la base de la volonté de l'Union européenne d'imposer un euro numérique. Vincent, comment vous interprétez ça? Quelles sont les motivations réelles derrière?
Bon, les motivations, c'est faire des procès d'intention, c'est toujours un peu délicat. Surtout a priori, a posteriori, évidemment, on pourrait tirer des conséquences assez claires. Mais je pense qu'il y a déjà avant tout une question de taxation, c'est-à-dire ces idées de. C'était la COP26 qui, au nom donc de la question climatique, climatologique, proposer de commencer à mesurer la consommation ou les émissions de CO2 attribuées à chaque personne de façon individuelle. C'est quelque chose, le Monde vient de sortir un papier là-dessus, faut-il mesurer les émissions ou accorder un crédit carbone individuel? Là encore, la réponse est un peu dans la question. Ce à quoi on va aboutir assez rapidement, ça va être un système de taxation en temps réel et qui va tenir compte de nos achats sur une période. Alors, par exemple, COP26 et Crédit Suisse, ça ne s'invente pas, qui avait sorti une étude sur quel serait un comportement d'achat durable. Et donc, par exemple, pour une personne, on aurait droit à, je crois, 100 grammes de poulet par semaine. Bref, chaque comportement d'achat serait comptabilisé dans une base de données. Et selon où vous en êtes sur une période donnée, on va commencer à taxer progressivement, voire à vous bloquer. Parce que c'est un aspect des monnaies numériques que de permettre le blocage également de tel ou tel achat, si ce n'est du compte en lui-même. Par exemple, la Banque de Russie disait, pour présenter les vertus de sa monnaie numérique, qui est en train de sortir, expliquer que, par exemple, les enfants, on pourra les empêcher d'acheter des bonbons. Voilà, donc pas de carie pour les enfants grâce à la monnaie numérique qui sera programmable et qui donc, permettra un contrôle fin, granuleux des comportements d'achat. Et donc une taxation en conséquence.
Qu'est-ce que tu penses de ces tendances, de ces mesures? On est en train de glisser doucement dans une forme de crédit social, d'État franchement totalitaire. Est-ce que le public est vraiment conscient de toutes les programmes qui sont actuellement dans les tiroirs de l'Union européenne?
Une chose qu'il faut que j'ajoute, c'est la notion de rationnement. Par exemple, Mario Draghi, avant de quitter son poste de Premier ministre italien, avait émis la proposition de rationner les achats alimentaires. Et donc, si tout est numérique, évidemment, on pourra octroyer on pourra décider que chaque personne a le droit d'acheter tant de choses de tel type et pas plus. Ce qui rejoint accessoirement une prophétie d'Emmanuel Macron qui date de l'année dernière, où il annonçait que dans les 12 à 18 prochains mois, donc ça veut dire pratiquement cette année, le deuxième semestre de cette année, l'Europe et l'Afrique serait déstabilisé par des questions de pénurie alimentaire. Donc ce sont des choses, si on les considère à froid, on voit mal comment elles peuvent être amenées. En revanche, ça laisse, en fait, il faut un contexte qui permette des rationnements de ce type.
Qu'est-ce
Par
qui est,
exemple,
qu'est-ce qui explique finalement ces rationnements? Est-ce que c'est enfin, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des rationnements. Est-ce que c'est organisé? Comment ça se passe?
est-ce que c'est organisé? Pour l'instant, on ne voit pas comment ça pourrait être introduit. Par exemple, des rationnements drastiques sur la viande, ça paraît un peu surprenant. D'un autre côté, on peut voir que il y a un très fort endettement paysan, par exemple, en Europe, et ça va nous amener, je présume, sur les questions plus purement financières. Si on se retrouve subitement en situation de déflation, ça veut dire que le poids de la dette subitement devient beaucoup plus lourd, plus important ça peut être vrai pour les hypothèques, ça sera vrai pour les leasings, et ce serait également vrai, par exemple, pour l'agriculture. Alors, imaginons, c'est moi qui donne cet exemple, on verra bien. Imaginons de la production de viande industrielle qui semble-t-il une monstruosité. Dès qu'on voit des images, c'est très peu ragoûtant. Qui serait endettée, est-ce qu'on va nécessairement la sauver? Et peut-être que pas. Peut-être qu'on va précisément les laisser faire faillite. Le gouvernement néerlandais, il y a quelques mois, a annoncé qu'il voulait réduire la production de viande de 30% aux Pays-Bas, qui est je crois, le plus grand exportateur de viande au monde. En tout cas, c'est le numéro 2 mondial de l'exportation agroalimentaire, ce qu'on ne sait pas tellement, parce qu'ils exportent énormément de viande et donc il y a une valeur importante d'exportation. Ils voulaient fermer 11 000 fermes. Ils l'ont annoncé, tu disais l'autre jour, on discutait, on va dire, ils commencent à faire des erreurs, et peut-être qu'ils s'y sont pris un peu trop tôt et ils ont annoncé un peu trop clairement leurs intentions, et donc il y a eu un contre-mouvement de paysans qui se sont constitués en partie, ou alors il y avait un micro-parti qui existait déjà et qui ont fait les meilleurs scores aux dernières élections régionales. Donc ça donne l'impression que, voilà, d'un endroit à l'autre, les gens vont plus ou moins réussir à s'organiser, à résister. D'un autre côté, tout ce qui est production de viande industrielle, il se pourrait que dans le cours de la crise financière qui s'annonce un peu carabinée, voilà, il y ait des choses qui disparaissent, et aussi du point de vue de la consommation d'énergie. Il peut commencer à y avoir voilà, des tensions qui font qu'on aboutirait à des pénuries. En tout cas, c'est un peu un jeu de devinettes. On sent qu'il y a une volonté de nous amener quelque part. Aussi, depuis des années, on nous parle des insectes qui sont vraiment le repas du futur. Ça va être extraordinaire. Et donc, on attend de voir comment on arrive à ce point-là. Et donc, je me demande comment on va faire, déjà, ne serait-ce que par rapport à cette question de déstabilisation de l'Europe sur le plan alimentaire cette année, prédite par Emmanuel Macron, qui, dans le même temps, annonce un rationnement de l'eau pour les paysans français, en prédisant encore une sécheresse très importante cette année. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est réellement en France. En tout cas, là où j'habite, il n'arrête pas de pleuvoir, donc je ne sais pas. Mais donc, des prix d'engrais qui sont d'ores et déjà très importants, notamment du fait des frictions avec la Russie. Parce que pour fabriquer des engrais, il faut du gaz, ce que l'on ne sait pas nécessairement. Et donc, il semblerait qu'il y ait vocation à y avoir une sorte de conjonction de circonstances qui nous amène à une situation de tension très forte sur du point de vue alimentaire. Et ce que je ne savais pas jusqu'à récemment, c'est que la France, tout comme la Suisse, importe la moitié de sa viande. Donc, c'est aussi toute la question énergétique. Dès qu'il y a des transports qui sont impliqués, ça fait évidemment aussi. Parce qu'on est maintenant en situation de friction avec la Russie, on importe 30% de notre pétrole, 40% du gaz, 50% du charbon, et même la France importe, et j'ai appris très récemment, 30% de son uranium, en tout cas l'année dernière, provenait de Russie. Donc selon les circonstances géopolitiques, etc., il semblerait qu'il y ait voilà, un peu de marge de progression pour se rapprocher d'une situation voilà, de pénurie qu'on nous annonce.
Est-ce que la crise énergétique est utilisée pour justement créer ces rationnements, créer une crise financière, une crise monétaire et ensuite imposer ce fameux euro numérique? Dans quelles circonstances il pourrait l'imposer à ton avis?
L'euro numérique, tu dis
Oui.
spécifiquement?
Oui.
L'euro numérique, ce serait suite à un choc. Alors, on va entrer sur le. Je te propose de revenir après sur la question énergétique plus spécifiquement. Donc, commençons par l'euro numérique. Il faut un choc financier très important. Il faut savoir que depuis 2010, environ dans le monde entier, on se prépare le nouveau système de sauvetage des banques, et plus spécifiquement de celles qu'on appelle les too big to fail, c'est de passer de ce qu'on appelle le bail-out au bail-in. Donc, au lieu que ce soit l'État qui intervienne pour sauver les banques, ce sont les épargnants, ce sont les créanciers de la banque dont font évidemment partie les épargnants, qui ont vocation à participer aux pertes de l'établissement. Or, il se trouve que l'épargne que l'on a en banque, c'est de la monnaie, c'est de la masse monétaire. Si on commence à dire à supprimer les dettes bancaires, les dettes des banques, pour leur permettre de survivre, ou tout au moins de certaines d'entre elles, on est en train de détruire de la masse monétaire. Et si ce choc économique est important, la destruction monétaire va être également importante. Et plus on comprime la masse monétaire, et plus tout ce qui est dette va devenir pesant pour la population, en plus des faillites d'entreprises qu'on peut d'ores et déjà prévoir. Il y a toute la question des entreprises zombies, qui, depuis quelques années, est assez prégnante. Alors, une entreprise zombie, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui se finance et qui ne peut pas payer ses intérêts sans emprunter. Donc, elle emprunte pour servir sa dette. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionne pas du tout. Et par exemple, aux États-Unis, on sait, à la fin 2020, on annonçait qu'un sixième des 3 000 plus grosses entreprises du pays étaient zombifiées. Ou en Allemagne, on a toujours l'impression que tout va bien en Allemagne. Or, de très grosses entreprises comme ThyssenKrupp, les fameuses aciéries, sont par exemple considérées comme des zombies. Il y avait une étude de Natixis qui montrait, et qui date déjà un peu, qui montrait que entre 15 et 20%, 15 voire 25%, selon les pays européens, des entreprises étaient zombifiées.
Juste, essayons de clarifier un petit peu plus ces entreprises zombies. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des entreprises qui sont artificiellement
Maintenant,
endettées et qui n'ont pas d'activité profitable, c'est ça?
c'est ça, c'est ça. Elles sont artificiellement maintenues en vie par le système bancaire grâce à des
Des
règles,
manipulations comptables, éventuellement, évidemment.
des manipulations comptables. Il pourrait y en avoir du côté des banques. Je pense surtout Il y a des insiders allemands qui avaient parlé de ça de façon, me semble-t-il, crédible. Et d'ailleurs, je crois que c'était en 2017, on avait appris qu'il y avait 1 000 milliards pour 1 000 milliards d'euros de dettes qui étaient irrécupérables, les non-performing loans, donc de prêts irrecouvrables par les banques. Et puis, 2 ans plus tard, on a dit, ah oui, il y a plus que 800 milliards. Enfin, miraculeusement, tout s'était résorbé. Et bon, des insiders allemands avaient expliqué que les institutions européennes chargées de la surveillance avaient fait preuve d'une sorte de mansuétude sur ce point-là. Et donc, qu'il y aurait des prêts irrecouvrables qui ne sont pas considérés comme... Et évidemment, en situation de déflation, donc le poids de la dette s'accroît sur les individus, sur les entreprises, et donc ça augmente les potentialités de commencer à avoir pas mal de faillites. D'ailleurs, les faillites sont en train, déjà grâce à l'augmentation des coûts de l'énergie, de rebondir vigoureusement. Et accessoirement, McKinsey, le fameux cabinet de conseil, entre-temps, ils sont vraiment devenus célèbres et populaires. Ils annonçaient déjà il y a quelques années que d'ici 2027, précisément, 75% du S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, auraient disparu. Et même si on remonte en 2009, le PDG, le directeur général plutôt de McKinsey, annonçait que la crise ne faisait que commencer avec les subprimes, qu'elle n'était absolument pas résorbée, contrairement à la narration médiatique ambiante, et que quand on sortirait de la crise, l'économie serait transformée et accessoirement qu'il y aurait des basculements géopolitiques. Maintenant, c'est devenu mainstream de parler de nouvel ordre mondial. Biden en a parlé, le patron de BlackRock en a parlé aussi. On parle de nouvel ordre mondial, c'est devenu mainstream. Et quant à la restructuration de l'économie dont parlait le directeur de McKinsey, j'aurais tendance à faire le lien avec la montée en puissance assez impressionnante de l'intelligence artificielle, que l'on découvre subitement, le grand public découvre, et moi aussi accessoirement dans le concret, avec le chat GPT, de pouvoir s'entretenir. En ce qui me concerne, je suis très impressionné, tout en voyant les limites et tout en sachant qu'il ne s'agit pas de la version la plus aboutie qui existe. C'est la version gratuite, c'est une sorte c'est un démonstrateur et qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas vocalement, on va dire. Et lui-même, d'ailleurs, quand on lui pose la question, il dit que non, non, il y a mieux que lui. Il explique d'ailleurs pourquoi, si on lui demande. Pour ceux que ça intéresse.
Est-ce que tu peux expliquer en deux, trois mots comment fonctionne ChatGPT? C'est quoi?
Non, alors
C'est
je vais pas.
une plateforme où déjà on peut échanger entre utilisateurs ou c'est simplement pour consulter?
En fait, personnellement, je m'en sers. Je lui pose des questions plutôt que d'aller sur des pages Wikipédia et de lire moi-même. Je lui demande, fais-moi le résumé de ceci, cela. Et je regarde selon comment ça me paraît crédible. Ensuite, après, je vais chercher moi-même. Je suis
Et
un
alors,
utilisateur très, très occasionnel.
revenons sur cet euro numérique, sur la crise bancaire. Est-ce que tu as quelques commentaires à faire sur la chute de Crédit Suisse et le fait que
Bon, Crédit Suisse, il y a quand même deux, trois choses à dire sur la manière dont ça nous a été présenté. En Suisse, c'est très étrange. Beaucoup de gens, déjà, ne sont pas conscients qu'il y a 250 milliards là, à ce stade, un peu plus même, qui sont prévus, qui ont été mis à disposition pour ce sauvetage supposé. On espère On verra à quoi ça aboutit. Et une autre chose, c'est que initialement, on nous a annoncé qu'il s'agirait de 50 milliards. Donc, quand les médias, alors qu'on était déjà à 200 milliards, et quand les médias commencent à jouer ce genre de jeu-là, je me dis, c'est que c'est vraiment, enfin, ça me paraît un assez mauvais signe, parce que le fait qu'on puisse constater assez facilement et froidement qu'on nous a raconté des histoires, ça ne me paraît pas très bon signe, parce que ça ne peut pas durer, me semble-t-il, extrêmement longtemps. Donc 50 milliards, on est passé à 200, puis 50 de plus. Donc c'est considérable. Si on compare ça à l'épargne retraite, dite deuxième pilier en Suisse, qui est de 800 milliards, on voit que c'est le même ordre de grandeur. Donc ça interpelle. Ensuite, l'autre chose que j'aimerais bien relever, c'est cet article que je viens de t'envoyer, qui date d'il y a 2 jours, et qui raconte que la moitié des banques américaines, 2300 banques américaines maintenant, ont plus de dettes que d'actifs. Donc ont des fonds propres négatifs, d'après les estimations d'instituts, etc. Mais c'est une information relayée par le Télégraphe anglais, et étayée par divers académiciens. Donc ça donne l'impression, ce genre de nouvelles, déjà, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus attentifs tout de même. Qu'il faut pas énormément insister pour si on les encourage à retirer un peu leurs sous de la banque pour les y faire en tout cas réfléchir sérieusement. Et ça donne l'impression que maintenant, avec en plus des informations de ce type qui sortent, qui ne sont peut-être pas très communes, mais que j'ai de la peine en tout cas à m'imaginer que ça dure très longtemps. Et le deuxième aspect, c'est l'éventualité d'un défaut américain, donc de l'État qui, totalement ou partiellement, cesserait de. Enfin, répudierait
Tu
sa
penses que
dette.
c'est envisageable, ça, ou...
Ben, je regardais ça depuis quelques semaines. J'essayais de voir un peu où en étaient les crédits de default swap sur la dette américaine, donc les paris sur une faillite de l'État américain qui ont énormément augmenté. Alors, il y avait tout un débat. Je crois qu'ils ont été multipliés par 14 en un an, quelque chose comme ça. Il y a tout un débat pour dire que oui, peut-être ce n'est pas un marché très liquide et donc tout cela n'est pas très représentatif. Et pour ma part, je me disais que politiquement, c'était quelque chose de pas faisable et que les États-Unis feraient défaut peut-être après d'autres implosions bancaires ou quelque chose comme ça. Finalement, je suis tombé il y a quelques jours sur un papier de or.fr, très bon site, je trouve, d'information économique, qui faisait remarquer que maintenant des intérêts, la charge d'intérêt de l'État américain commence à se rapprocher du budget de la défense. Et que, accessoirement, un des premiers bénéficiaires de ces intérêts payés par l'État américain, c'est la Chine. Or, quand on voit maintenant la rhétorique états-unienne sur la question chinoise, ils se préparent à la guerre avec la Chine, ils disent très ouvertement. De ce point de vue-là, évidemment, de payer je sais pas, des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars à l'ennemi que l'on a ambitionné d'abattre, évidemment, il y aurait, semble-t-il, sur le plan politique, une manière de présenter tout au moins un défaut partiel, qui serait quand même vraiment quelque chose d'inédit, me semble-t-il, en tout cas dans l'histoire récente, on va dire.
Alors, est-ce que ce défaut de paiement potentiel risque en fait le carburant de ce défaut, ce serait la dédollarisation dont tout le monde parle. C'est-à-dire que ben voilà, le Brésil va acheter ses importations chinoises en yuan, l'Inde achète aussi, l'Inde oui achète le gaz russe en roupies, donc il y a une dédollarisation. Est-ce que ça peut accélérer un potentiel défaut de paiement des Américains?
En fait, ce seraient les Américains qui accéléreraient la dédollarisation en faisant défaut. C'est pour ça que je me disais que ça me paraissait à peu près impossible politiquement. Cependant, il faut tout de même constater que aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont favorables à un retour de l'état de droit, surtout chez les républicains. Et Trump, par exemple, était favorable à cela. Il l'avait dit une fois dans GQ, c'est un magazine People, donc c'est assez étrange et ça avait été très peu relayé. Donc il y a tout un mouvement, et Ted Cruz aussi, je pense, est favorable à l'état de droit. Donc il y a tout un mouvement aux États-Unis qui, c'est-à-dire si le gouvernement actuel faisait défaut sur la dette, qui n'aurait pas grand-chose à dire de ce point de vue-là. Si, par exemple, Trump, qui est très anti-chinois, me semble-t-il, une rhétorique tout au moins très anti-chinoise, n'aurait pas grand-chose à dire là-dessus. D'un côté, il est favorable à l'état, au retour de l'état en or, donc dédollarisation. De l'autre côté, il veut se chamailler avec la Chine, donc arrêter de payer les intérêts seraient. Voilà, en fait, ça correspondrait à ça. Il me semble que c'est. La question de la dédollarisation, je ne pense pas que ce soit aussi subversif, finalement, tout compte fait, tout bien réfléchi, qu'on le pense, ou que je le pensais, en tout cas pour ma part, il y a quelques années de cela. C'est-à-dire, au G20, Klaus Schwab expliquait, déjà, nous allons façonner le nouvel ordre mondial, il sera multipolaire, et donc ce n'était pas quelque chose du point de vue de Davos qui était particulièrement inquiétant, semble-t-il, la multipolarité en elle-même. Alors, Klaus Schwab, je vais peut-être juste préciser qu'il explique que, par exemple, Macron, Merkel, Poutine, ce sont des young global leaders, des gens qu'il a un peu fabriqués, comme quand Jacques Attali dit que c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron. Enfin, bon, d'ailleurs, les deux se chamaillent du coup un peu la paternité politique de Macron. Donc, du point de vue d'une organisation comme Davos qui prétend redéfinir l'ordre mondial et réorganiser le fonctionnement de l'économie, l'étalon or en soi n'est pas nécessairement gênant. Et on pourrait même partir de l'idée qu'il y a que le basculement de l'économie mondiale, du centre de gravité de l'économie mondiale vers la Chine, qui était annoncé par le patron de McKinsey il y a plus de 10 ans maintenant. Au final, parce que quand on est anti-système, on compte sur la Russie et sur la Chine pour changer les choses et en remontrer aux Américains. Mais quand on regarde le fonctionnement de la Chine en ce moment, et surtout depuis le début de la crise sanitaire, moi, ça ne me fait pas plus rêver que cela. Enfin, ils sont dans un contrôle quand même assez poussé, on va dire, et qui ne me paraît qui rejoint un peu ce dont on discutait au début. Tu parlais de contrôle totalitaire, bah, chez eux, ça existe déjà, et puis nous, bah, peut-être on va les rejoindre petit à petit ou à coup de crise inattendue.
Comment tu anticipes ces prochains mois? Il y en a beaucoup qui disent que c'est une période potentiellement où ils sont en train de préparer un crack ou une crise monétaire, bancaire. On parle entre le mois de juin et le mois d'octobre. Attali parlait de quelque chose potentiellement au mois d'août. Bon, lui, on sait que c'est le porte-parole un peu de l'oligarchie, grossièrement, du WEF. C'est quelqu'un qui a suivi de près les présidents français depuis Mitterrand. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à anticiper et à lancer dans les médias à l'avance ce qui va arriver. Déjà qu'en 1979, il anticipait déjà ce qui se passe maintenant au niveau du Covid, crise sanitaire, etc. Suppression des médecins à terme, intelligence artificielle. Donc, on se pose pas mal de questions. Qu'est-ce que tu penses de cette période entre juin et octobre 2023? Et il pourrait se passer quelque chose de grave?
Alors, je me trompe toujours sur les prévisions en termes chronologiques, quoi. Enfin, sur la temporalité, j'arrive pas à dire. Mon impression, c'est que les gens commencent à sentir qu'il se passe quelque chose et comme le but, c'est d'éviter le bank run, j'ai l'impression que les choses pourraient se précipiter, peut-être même avant ce qu'anticipe Jacques Attali ou d'autres. Jacques
Juste pour
Attali.
clarifier, donc tu parles de bank run. Donc le bank run, c'est en anglais, on retire un maximum ses fonds avant que tout s'effondre. Donc en français, on pourrait dire quoi?
Une
Un
course à la
retrait.
banque, je pense, c'est
Voilà, une course à la
l'expression
banque,
française.
retrait des fonds massifs, parce que les gens se rendent compte que le système va potentiellement s'effondrer, qu'ils retrouveront potentiellement pas leur épargne, c'est-à-dire que les banques vont confisquer, comme elles ont fait à Chypre, l'épargne des gens. Il y a officiellement une couverture de 100 000 euros, je crois, mais c'est une blague. Il n'y a jamais personne qui va toucher cet argent, en fait.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, j'avais ressorti un article de 2018 que j'ai retoqué il y a 2 semaines, peut-être 10 jours. Et en fait, quand ils sont au Parlement suisse, ils discutent entre eux, même si c'est consigné d'ailleurs par écrit officiellement, il n'y a pas de garantie. Tout le monde sait bien qu'il n'existe aucune garantie. Ils appellent ça des dépôts privilégiés. Et ça veut dire que d'abord, on confisque ton épargne, elle n'existe plus, et ensuite, on va tâcher de te la rendre, voilà, plus tard, quand on pourra. De plus, c'est un système qui est prévu. En fait, c'est une association autorégulée du système bancaire. Donc, ce sont les banques entre elles qui réfléchissent à comment elles vont. Donc, si on fait confiance aux banques, on peut se reposer sur ce système. Si on a un petit doute sur leur fiabilité, en revanche, peut-être qu'il faut réfléchir 2 fois. Donc c'est un système qui est conçu pour sauver une banque à la fois et qui ne soit pas trop gigantesque. Maintenant, on voit par exemple UBS qui reprend Crédit Suisse. Est-ce que ce système, même pour sauver, si besoin était la seule UBS, est-ce que ce système aurait une efficacité quelconque? On peut en douter. Donc déjà, un, il n'y a pas véritablement de garantie, quelle qu'elle soit. C'est un remboursement pour plus tard. D'abord, on prend l'argent et ensuite, c'est un remboursement éventuel quand les choses vont mieux. Et puis, c'est pas précisément dans une situation de soucis systémiques où toutes les banques, ou plusieurs banques, disons, commencent à avoir des problèmes, ce sont ces banques-là qui sont censées avancer les fonds. Et donc il y a évidemment un petit souci conceptuel, on va dire.
Qu'est-ce que tu penses? On est quand même là au cœur d'une violation des droits de propriété, c'est-à-dire que les banques considèrent que l'argent qui est déposé chez elles, c'est le leur?
On considère que, y a un intérêt supérieur qui est de sauver les banques trop grandes pour faire faillite. Voilà,
D'accord, donc quel
c'est
que
comme les
soit.
250 milliards de Crédit Suisse. Et où ont-ils été perdus? Déjà, j'ai pas l'impression qu'on nous explique tellement où ils sont passés. En général, c'est jamais perdu pour tout le monde. C'est un peu un jeu à somme nulle. Donc, l'argent est forcément allé quelque part.
Exact.
Maintenant, ça n'intéresse personne vraiment. Tant qu'on ne touche pas vraiment comment dire, au compte des gens, c'est vrai que ça passe. Mais même les gens qui passent du temps devant la télévision, qui font confiance, qui ont suivi les instructions sanitaires, etc., je vois qu'il n'en faut pas beaucoup à ce stade pour les interpeller sérieusement quant à l'opportunité de commencer à retirer leur sous.
Alors,
Est-ce que...
toi, tu es basé en Suisse, du côté de Neuchâtel, donc tu as accès plus facilement à l'information en Suisse sur justement Crédit Suisse et UBS. Est-ce que tu as des choses particulières à mentionner par rapport... Donc là, tu es en train de poser la question et qu'effectivement, le Conseil fédéral avait parlé de 50 milliards pour sauver Crédit Suisse, ensuite ça a été 100 milliards, ensuite 200, ensuite 250 milliards, c'est des sommes colossales. Et que tu poses la question d'où viennent ces pertes et qu'il n'y a pas de détails en fait. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de mener les gens en bateau? Y a ta maman Liliane El Kawam qui a récemment suspecté en fait la Banque nationale suisse d'utiliser le trafic des paiements pour financer l'achat de ces titres. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Alors, j'ai pas vu hein, les données qui permettraient de tracer exactement ce qui s'était passé. Ce que j'ai vu, en revanche, c'est les 150 milliards du Parlement qui ont été débloqués. Et en réalité, ils ont été débloqués par le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse, qui n'a plus besoin de l'accord du Parlement. Ça s'était déjà fait d'ailleurs au moment d'UBS. On avait perdu 30 milliards, comme ça, qui avait été compensé par la Banque nationale. Et donc, pour l'instant, il faut savoir que les fonds propres de la Banque nationale ont beaucoup fondu ces derniers temps. L'année dernière, ils ont perdu, je crois que c'était 130 milliards et quelques de francs suisses. Donc là, ils sont un peu remontés, ils sont à 90 milliards, quelque chose comme ça. Mais les 150 milliards déjà, donc eux se sont engagés sur 250 milliards. À un moment où ils avaient, je crois, 75 milliards de fonds propres. Donc déjà, il y a de quoi interpeller. Et maintenant, c'est le gouvernement suisse qui est intervenu pour dire que ce serait le ministère des Finances donc qui épongerait les 150 premiers milliards en question. Je n'ai pas vu dans le bilan de la Banque nationale véritablement de quelle manière il serait intervenu. Ils sont en train de lever des fonds voilà, sur les marchés. Je crois qu'ils ont levé 100 milliards de francs de dette pour voilà, soutenir leur bilan. Mais donc, mon impression, c'est que ces 150 milliards qui ont été apportés par le ministère, qui vont être apportés par le ministère des Finances, ça permet pour l'instant de ne pas parler de fonds propres négatifs à la Banque nationale, qui serait là encore un signal un peu affolant et interpellant et qui pourrait voilà, qui susciterait des interrogations. Donc c'est aussi une manière, me semble-t-il, de ne pas trop inquiéter les gens. Et de ne pas avoir à répondre à ce point. Alors il se trouve que le président actuel de la Banque nationale avait déjà annoncé en 2011 qu'il pourrait finir avec des fonds propres négatifs et continuer à fonctionner. Au final, rien ne les empêche de continuer à fonctionner avec des fonds
Donc c'est à
propres.
travers quoi? Une dette artificielle, une sorte de caution de la Confédération suisse, comment ils arriveraient à avoir des fonds propres négatifs finalement?
Ben, en perdant de l'argent sur leurs placements. Ils ont beaucoup de dettes américaines, ils ont beaucoup de dettes européennes. En fait, un sous-quantitative easing américano-européen. Ils ont fait voilà, ce qu'ont fait la BCE et la Fed. Donc, ils ont racheté beaucoup d'obligations européennes et américaines et aussi un certain nombre d'actions. Donc, au fur et à mesure que, parce qu'ils ont dans les 1 000 milliards, un bilan dans les 1 000 milliards de francs. Donc, dès qu'il y a des variations de change ou que les marchés obligataires ou d'actions éternuent, bon, alors ça peut causer de grosses variations, de grosses fluctuations sur leurs actifs.
Concernant, on parlait du bank run tout à l'heure, donc les particuliers et aussi les investisseurs, quel conseil tu peux donner toi aujourd'hui à soit des particuliers qui ont un petit peu d'argent sur leur compte ou des investisseurs aussi qui ont acheté des obligations d'État ou fait d'autres investissements? Quel conseil tu leur donnerais aujourd'hui?
Sauf qu'il peut. Moi, je suis sur la ligne de la débancarisation à titre personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Acheter un peu de métaux, voilà, tout le monde est assez d'accord. En fait, par exemple, sur le fait que l'or devrait prendre de la valeur. Du reste, il faut remarquer que l'or a été catégorisé comme Tier 1. Ce qu'ils appellent Tier 1, c'est les actifs sans risque. Des fameux accords Bâle 3, qui sont les réglementations auxquelles sont soumis les systèmes bancaires un peu de tous les pays du monde, au final. Et donc, l'or, depuis quelques années, est considéré de nouveau comme sans risque. Et je me dis que dans ces actifs considérés comme sans risque, il y a de la dette américaine, il y a de la dette. Crédit Suisse, il y a quelques années, avait émis des obligations considérées comme Tier 1, Deutsche Bank. Et donc, je me dis que si le reste commence à sauter, il va rester l'or. Et comme les banques sont forcées également de garder une partie d'actifs Tier 1, il se pourrait, me dis-je, peut-être à tort, que la réappréciation, réévaluation de l'or, tout au moins par rapport aux autres actifs, soit assez soudaine et peut-être assez rapide. Maintenant, il y a aussi l'effet déflationniste. Donc, il faut aussi considérer que si la masse monétaire se réduit beaucoup, en valeur absolue, il se pourrait conceptuellement que l'or n'augmente pas directement en valeur, c'est-à-dire monétaire, voire baisse. Mais voilà, ça me paraît pas une mauvaise idée d'en avoir, d'autant plus que le scénario de l'hyperinflation me paraît mériter considération. C'est-à-dire que comment peut-on dire?
Alors
Il y
juste
aurait
pour
beaucoup de. Oui.
l'hyperinflation, j'aimerais préciser quelque chose. Je crois comprendre qu'on parle d'hyperinflation quand ça dépasse les 30%, c'est bien ça?
Je pense pas. Je pense que il faut avoir une définition un peu plus large. C'est-à-dire qu'une hyperinflation, ça ne peut pas arriver de soi-même. Il faut des conditions de réalisation bien précises, à savoir, premièrement, des pénuries énergétiques, comme on a commencé à voir déjà l'année dernière, et secondement, des injections de liquidités conséquentes et qui vont devenir par la suite illimitées. Et donc, on va tendre vers une exponentielle. J'avais posé cette hypothèse de l'hyperinflation en août 2021. Et je me disais, avec un ami, on avait fait une vidéo, et on réfléchissait un peu comme ça, on devisait, on réfléchissait à voix haute. Et j'avais dit, oui, c'est vrai que l'Ukraine, ça pourrait être un moyen commode de causer de l'hyperinflation, vu que nous sommes excessivement dépendants de la Russie sur toutes ces questions énergétiques. Et voilà. Et donc, quelques mois plus tard, on avait l'Ukraine. Et il semblerait pas que ce soit fini. Donc, ça pourrait. C'est-à-dire que si les chocs venaient d'une politique gouvernementale totalement enfin, planifiée, enfin, lisible, ça serait totalement impensable. Mais si les chocs proviennent de tensions géopolitiques apparemment auxquelles on ne peut apparemment pas grand-chose, là, ça devient plus explicable aux gens. S'il y a des chocs, c'est un peu la théorie du choc de Naomi Klein. C'est-à-dire que si, dès qu'il y a des choses, des facteurs extérieurs qui provoquent des conséquences spectaculaires, on peut plus facilement imposer des agendas éventuellement un peu brutaux également. Oui, il semblerait, par exemple, l'attitude de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie ne s'explique pas très facilement. C'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants du gaz russe pour leur industrie. Depuis qu'ils ont commencé à sanctionner la Russie, ils ont tous les jours, on voit de vieilles entreprises qui font faillite. Donc, c'est pas très explicable du point de vue de l'intérêt national, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire. En revanche, si on part de l'idée qu'on souhaiterait effectivement mettre en place une hyperinflation, Davos discute de ces questions et il trouve des avantages. Par exemple, la suppression de l'argent liquide, ça serait une des conséquences positive, disons, d'une hyperinflation, le fait de pouvoir réorganiser la fiscalité ou de réduire les frais de l'État. Par exemple, les salaires des fonctionnaires ne sont pas, sont rarement, de ce que je vois, je ne le savais pas du tout, et je découvre ça, que bien souvent, en fait, tous les exemples que j'ai cherchés, j'ai toujours trouvé ça. Bien souvent, les salaires des fonctionnaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Ils sont indexés par des décisions politiques qui viennent dire, ah ben, il y a eu tant d'inflation, donc on indexe. Mais ce n'est pas nécessairement automatique. Et il y a des débats d'ailleurs là-dessus, des gens qui réclament la réindexation, etc., y compris en France. Donc l'hyperinflation, ça pourrait aussi servir à ça. Récemment, on proposait aux fonctionnaires français de compléter leurs revenus en faisant chauffeur de bus d'école. Donc, il me semble que ça pourrait s'inscrire dans une logique de ce type. Et sur la question énergétique, il y a aussi une chose qui me trotte en tête, c'est la question du gaz et du pétrole de schiste américain. J'ai découvert récemment que le pétrole de schiste américain représente 9 millions ou représenterait, on va dire, parce que les chiffres sont toujours un peu fluctuants selon les sources, 9 millions de barils par jour sur 11 millions de production totale aux États-Unis. Or, il y a tout de même quelques suspicions que tout ce qui est schiste aux États-Unis repose un peu sur des systèmes de financement où, par exemple, la Banque nationale suisse avait perdu 1,4 milliard de francs sur quelques mois sur le schiste américain. Ou alors, on a BlackRock qui, sur quelques années, avait perdu 90 milliards de dollars sur des énergies fossiles, on nous dit. Alors, est-ce qu'il s'agit peut-être du. Est-ce que le gaz de. Ce qui paraît pas évident. Normalement, si on investit dans des entreprises pétrolières, on fait quand même de l'argent. Enfin, ils versent des dividendes, me semble-t-il. Et donc, est-ce que le schiste serait basé sur un système où les gens financent à perte? En tout cas, c'était l'hypothèse qu'avait avancée Laurent Horvat, qui est un économiste genevois qui passe à la télé. C'est pas quelqu'un de sulfureux particulièrement. Et donc, est-ce que il se pourrait qu'on ait une sorte de doublé crise financière et crise énergétique qui en découlerait immédiatement? Tu vois, dans le sens où l'explosion des bulles financières causerait également la disparition d'une partie, tout au moins, de la production de gaz de schiste américain. Et par ailleurs, santé. Par ailleurs, on est en train de. Les gens ne savent pas, je pense, mais on est en train de piocher dans les réserves stratégiques aussi de pétrole. En tout cas, les États-Unis, c'est connu, alimentent au fur et à mesure que l'OPEP réduit sa production de pétrole. Ils ont commencé, en tout cas, l'année dernière. Et puis, par à-coup, ils réduisent de 1 million et quelques de barils par jour. Et les États-Unis sont en train de compenser ça en piochant dans leurs réserves stratégiques. Et Bloomberg avait sorti un article il y a déjà plusieurs mois de cela en disant que lesdites réserves étaient en train de s'épuiser plus rapidement qu'on ne le pensait. Donc, moi, je reste sur mon idée, hyperinflation, ça s'organise. Par exemple, si on regarde les centrales française, nucléaire française, le parc nucléaire l'année dernière, 50% des réacteurs étaient à l'arrêt, de façon un peu inexplicable et un peu étonnante. Et d'un autre côté, ça a permis tout de même d'apporter la thématique, il faut économiser de l'électricité, etc., la hausse des prix, qui peut-être ne fait que commencer malheureusement. Et par exemple, Emmanuel Macron a posé la thématique de rationnement de l'électricité, là encore, et du fait d'éventuellement commencer à couper l'électricité. Et en Suisse également, on est arrivé à l'idée de délestage cyclique. Mais évidemment, ce sont des choses des mesures un peu brutales. Délestage cyclique, ça veut dire on arrête toute. Dans une région, on arrête complètement de fournir de l'électricité, puis les gens se débrouillent pendant 2 heures, peut-être un petit peu plus. Dans le même temps, c'était tout à la fin de l'année dernière, le ministre de la Défense autrichien a expliqué qu'on passerait par un blackout à un moment donné. Et c'est vrai que il paraît très difficile d'instaurer des mesures de rationnement un peu drastiques sans qu'il y ait quelque chose en termes de communication, de spectaculaire, qui intervienne avant. Et donc, cette personne
En
se.
fait, tu es en train de dire qu'ils ont besoin d'avoir un événement, une crise potentiellement fabriquée, d'ailleurs, qui permette de justifier en fait ces blackouts et ces mesures contraignantes, tu veux dire?
Il faut des. C'est-à-dire, on ne peut pas. Toutes ces mesures, par exemple, de sobriété, on veut faire des villes de 15 minutes où les gens ne se déplacent plus. Ils restent chez eux, dans leur quartier. Ils vont plus à plus de 15 minutes de chez eux, globalement. Et ils prennent. Par exemple, les voyages veulent court-courrier. Je regarde mon rapport de Crédit Suisse suite à la COP26. C'est un vol de court courrier par année qui est autorisé. Ça paraît des restrictions. Évidemment, il faut qu'il y ait dans le même temps des pénuries s'il y a des pénuries de carburant, ça s'impose quasiment de soi-même. Il y aura une partie de la population qui, volontairement, pour sauver la planète, selon ses convictions, va être contente de la situation, puis le gros de la population va devoir se résigner. Mais pour en arriver à cet état de résignation, il faut qu'il y ait avant des choses suffisamment choquantes pour que tout le monde ne soit pas à dire si c'est le gouvernement qui fait quelque chose directement qui cause de telles conséquences, évidemment, tout le monde va être dans la rue. Or, en revanche, si ce sont des événements extérieurs, par exemple imputables aux Russes, vu qu'on parle de. Biden avait averti déjà il y a 2 ans qu'il y aurait des cyberattaques russes terribles qui nous cibleraient, là, ça devient plus facile d'expliquer que après tout c'est pas notre faute et il va falloir en revanche s'adapter. Klaus Schwab, oui, pardon.
Oui, non, on arrive à la fin de
Ah.
cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que tu veux mentionner, hein?
Bon, là, je vais juste finir sur ce que j'avais commencé sur Klaus Schwab, qui avertit de cette pandémie de cyberattaque qui serait plus effrayante encore que le Covid. Cependant, que en Russie, il collabore avec notamment la Banque centrale de Russie et la Banque Sber sur des scénarios de cyberattaque. Où il simule des cyberattaques mondiales pour évidemment s'en défendre et trouver des solutions. Voilà, donc ça paraît tout de même, il y a pas mal de choses qui semblent converger vers des scénarios de ce type et qui pourraient fournir des chocs qui petit à petit ou par à-coup nous amène dans une nouvelle normalité, pour reprendre le terme qui était devenu à la mode au moment du Covid.
Vincent Held, merci beaucoup pour cette interview. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Asservissement, que vous pouvez nous montrer, donc, qui est sorti en quelle année exactement?
C'était 2021.
2021, voilà. Et donc là, vous rentrez plus en détail pour expliquer un petit peu
Ah, pardon, pardon.
donc de la déshumanisation sociétale à l'esclavage numérique. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Abonnez-vous maintenant à la chaîne France Liberté sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des nouveaux messages et connectez-vous aussi sur le canal Telegram. Et voilà. Merci beaucoup, Vincent.
Merci Ludovic, bonne soirée.